Dans cette release de CPU de la chirurgie plastique, un serment sur la Bible, des parjures qui s'annoncent et les minorités furieuses. Alors je vous dis pas le milieu du business. L'équipe aujourd'hui d'Askreach, nous recevons Rudy Rigaud, senior software technologist expatrié aux États-Unis. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Merci, vous pouvez tweeter, mais uniquement position silence. Ok, allez, c'est parti.
CPU carré petit utile.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui te demandes ce qui nous faisait tant rêver en Amérique. Qu'un serial entrepreneur arrive à la tête d'un État, ben, ça veut dire qu'il doit forcément savoir mieux le gérer que d'autres. Qu'une star de la télévision arrive à la tête de l'exécutif, ah, ça veut dire qu'il saura mieux communiquer. Mais on a plus l'impression que les États-Unis ont eu Cyril Hanouna que, je sais pas quoi comparer, peut-être à Oprah Winfrey. Résumons, on a un gars qui a plus accumulé les échecs retentissants que les réussites industrielles, qui revendique avoir écrit une méthode pour réussir dans les affaires, mais qui n'en a pas écrit une seule ligne, un propriétaire immobilier qui est un raciste notoire envers ses locataires, un mec qui revendique prendre les meufs comme des packs de 6 bières, un menteur notoire qui n'a jamais supporté être pris la main dans le sac. Bref, on a un individu au portrait très peu flatteur, mais qui malgré tout est devenu président des États-Unis, et selon plusieurs témoignages de son propre entourage, ne voulait même pas de ce poste. À se demander d'ailleurs pourquoi il est allé dans sa course à la Maison-Blanche. Je sais pas, peut-être il avait une envie de franchise, un truc comme ça. On va finir par croire qu'Idiocracy, la comédie de Mike Judge, oui, le même créateur que Silicon Valley, est involontairement devenu un documentaire visionnaire. Joe Bowers, un garçon pas spécialement adroit, mais surtout américain moyen selon les statistiques, se retrouve congelé pour une expérience de l'armée, mais il se réveille 500 ans plus tard que prévu, et par accident. Parce que les gens pas très futés ont pris le pouvoir, parce qu'ils se reproduisent plus que les gens intelligents au fil des générations, eh bien le QI moyen de l'humanité a chuté au même niveau qu'une mouche. Les douchebags sont donc au pouvoir par la force du nombre, empêtrés dans les problèmes d'éducation, d'écologie, d'économie et de règles du Super Bowl. En soit, The Jerry Springer Show à l'échelle de la planète. Et donc, Joe Bowers se retrouve la personne la plus intelligente en ville. Glaçant, non ? Mais concentrons-nous sur les États-Unis, ce pays qui, depuis la fin du 19e siècle, est devenu un poids lourd de la recherche et de l'innovation. Que seraient actuellement nos technologies sans le MIT, la recherche nucléaire, la conquête spatiale, la Silicon Valley? Inversement, que seraient les États-Unis s'ils étaient restés sur une position conservatrice et xénophobe comme dans les années 30? Sans l'arrivée de cerveaux étrangers sur son continent et le brassage des idées qui va avec. Au final, on aura beau fanfaronner, mais l'Europe, la Chine et l'Inde ne peuvent pour l'instant faire vivre leur industrie IT sans les États-Unis. Donc il faut bien faire quelque chose, soit le dos rond, soit en profiter pour gagner des parts de marché. Mais est-ce que les États-Unis sont vraiment dans la mouise avec Trump? Est-ce qu'un an, ce n'est pas trop tôt pour en parler? Et Trump finalement? Est-ce qu'il n'a pas une chance infernale? Il n'a pas eu une crise économique comme celle de 2007. Il n'a pas eu de crise écologique majeure comme l'inondation de la Nouvelle-Orléans ou encore une crise sociale comme les émeutes de Los Angeles. Lui qui est tellement brouillon dans son gouvernement que les pontes de son propre parti tremblent à la moindre de ses sorties. Qu'un mauvais chef soit capable de faire couler une boîte, bon, ça on l'a déjà souvent vu. Mais comme le veut le principe de Dilbert, les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts possible, ceux de manager. En fin du futur immédiat, on parle de résilience du pouvoir politique et de son impact sur l'économie et la création. Alors, est-ce que le rêve américain est-il définitivement mort? Et est-ce que finalement ce n'est pas une chance pour la vieille Europe?
con mis compas quemando leños. El tiempo es de realizar mis sueños. Esto esperado desde muy pequeño. Por nada en el mundo yo cambio esto, aunque el proceso ha sido lento. Los que no esperaban esto lo siento. Y el dedo les aviento. Nuevo estilo con nuevo modo. Pongan atención, esto no es todo. Soy pariente del recodo. Diario en las calles hacemos bolo. Esto es para toda mi gente. Llego a tu pueblo de repente. Cítrico, cínico, el nuevo gerente. Más grueso que las cejas de Chente.
Son nuevos tiempos aquí.
Pasado, cuando el hip hop estaba controlado por toda la raza morena, diciendo que mi raza no puede, qué pena. Al fin tenemos un nuevo mercado. Dame la feria si yo me callo. Esta es mi vida año tras año. Todo lo malo, nada que extraño. Son prometiendo a ser excelente. El pueblo café aquí para la gente. Revolución mundial de repente. Más venenoso que una serpiente. Mi rico, cínico y pueblo café. Trayendo talento, así debe de ser. Nada de envidiosos como la ven. El tiempo nos pasa. Como un tren.
Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo,
¿no?
El pasado.
Ajá.
Y todo lo malo. Son nuevos tiempos aquí, pero no puedo olvidar yo,
¿no?
El pasado.
Ajá.
Y todo lo malo.
8 años tenemos en esto. Ahora sí que no venga pretexto. La vida está llena de reflejos. Diario me miro en el quejo. Digo yo mismo, tenemos que subir para la buena vida poder vivir. Nunca más quiero yo sufrir. Que los tiempos malos me hagan reír. No hay tiempo de mentiras. No más liquidando y andando en gira. Yo nunca ignoro los consejos. Mi jefa me da para no ser pendejo. Vamos a salir adelante con sacrificio iluminante. Contando cuentos desde más antes. Esta vida es lo más radiante.
Son nuevos tiempos aquí.
One more time.
Pueblo Café.
Son nuevos tiempos
aquí. Nuevos tiempos, extrait du film, justement, Idiocracy. Afin de parler de l'impact de l'administration Trump sur le secteur IT aux US, nous avons fait parler à un Frenchy expat qui s'est investi énormément pour former et faire collaborer les artisans du monde tech. Nous interviewons donc par satellite Rudy Rigaud, senior software technologist expatrié aux États-Unis, cofondateur de la Humbleton School, école de formation de code à San Francisco, auteur de livres techniques dont Projet responsive web design avec Jérémy Patonnier et Programmer en Go, pourquoi, comment, et ex-monsieur loyal des conférences Sudweb.
CPU carré petit utile.
Oui, ex-monsieur loyal, même, je tiens à faire une précision, Rudy est la première personne à m'avoir introduit à une conférence professionnelle, donc ça me fait immensément plaisir du coup de t'avoir introduit.
Voilà. Ben, je ne savais même pas ça, donc ça fait plaisir de savoir.
Rudy, comment t'es-tu mis à la programmation ?
Ça a été très progressif. En fait, je pense comme la plupart des gens de notre âge, parce qu'on est des vieux. Tu sais, je sais pas si toi t'as eu la même période au lycée où tout le monde s'est changé des disquettes avec des photos des séries télé de Beverly Hills.
Non, c'était des disquettes d'Apple II et c'était au collège.
Ah, zut.
Ça remonte.
Non, mais...
c'était juste avant la loi de 85.
Ouais. Non, mais voilà, moi, c'est un peu comme ça que ça a commencé. On avait un atelier informatique, il y avait un prof qui nous a appris le HTML, c'était super basique, c'était sympa. Et vu que j'aimais MSN Messenger, ben voilà, j'ai fait la fac d'informatique sans trop savoir pourquoi. Et puis, ben en fait, c'était cool. Et du coup, ouais, non, mais vraiment, hein, je suis tombé dedans. À la base, je voulais faire une école de comédie. Alors, ma mère a pas voulu, et du coup, j'ai fini comme ça. Voilà. Donc,
alors que t'es un sacré comédien, quand même, vraiment. En fait, après la fac, quel a été ton parcours?
En fait, déjà rien qu'à la fac la dernière année, en fait, j'ai étudié dans le Missouri aux États-Unis, donc c'était vraiment ma première expérience internationale.
D'accord.
Et je suis revenu en France. J'ai bossé 5-6 ans à Paris, principalement pour une agence web qui s'appelle Clever Edge, qui est une très bonne boîte, qui est okay. toujours là-bas, qui a
excellente réputation d'ailleurs.
Ouais, carrément, avec qui je garde des super bons contacts. Et puis, bah, j'avais vraiment le projet de revenir aux États-Unis. C'était une culture qui m'avait bien plu. J'avais envie de découvrir plus de choses et tout. Et donc, du coup, bah, j'ai bougé en Californie il y a 4 ans, je crois, à peu près. Et bon, en Californie, je fais plusieurs trucs. J'ai bossé à Apple pendant un an. J'ai donc monté Overton School, dont tu viens de parler, qui existe toujours et qui est super, qui fonctionne vraiment bien, mais dont je fais plus partie. Et ensuite, j'ai bougé à Chicago. J'ai bossé pour Salesforce pendant un temps. Et là, en fait, je viens de rejoindre, il y a genre un mois, une startup qui s'appelle Kena Security, donc qui est pas connue du tout, mais qui est en grosse croissance. En fait, j'avais envie de rejoindre un truc qui avait déjà du succès et de voir un peu comment ça se passe, là, l'hyper croissance vue de l'intérieur, parce que j'avais jamais trop fait ça. Et voilà, maintenant, du coup, je suis là-bas et voilà, je suis à Chicago, quoi.
Bah, c'est cool. Enfin, là, tu dois te les geler parce qu'on est en janvier. Chicago, c'est climat continental.
Théoriquement, ouais, sauf qu'aujourd'hui, non. Mais je sais pas pourquoi.
Bon, d'accord.
Oui, théoriquement, oui.
Depuis quand rêvais-tu de partir de l'autre côté de l'océan?
Ah, tu sais quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais. En fait, c'était pas du tout un intérêt que j'avais quand j'étais étudiant. J'avais un pote, en fait, en avant-dernière année de master qui avait décidé de partir en Alaska. Pour sa dernière année de master, parce que c'était juste l'université jumelle de la nôtre, j'étais à Saint-Étienne. Et en fait, il m'a donné envie, quoi. Et du coup, on s'est posé, je me rappellerai toujours cette conversation, parce que c'est un peu la conversation qui a le plus changé ma vie, au final, où on allait de temps en temps au resto, lui et moi, pour fêter quand on avait des bonnes notes, voilà. Et on s'est fait un resto, et je lui dis, ah, t'as trop de la chance et tout, tu parles au bout du monde et tout. Et il me disait, mais toi, t'as qu'à le faire aussi, y a rien qui te retient. Je dis, non, mais écoute, mec, tu comprends pas, c'est pas possible, j'ai un job, je bossais dans un hôtel pour financer mes études, je peux pas quitter le job. Il fait, ouais, mais tu vas pas bosser dans cet hôtel toute ta vie. Ouais, c'est vrai, mais bon, tu comprends pas, j'ai aussi mon appart. Oui, mais tu vas pas rester dans ton appart toute ta vie. Et puis à la fin de la conversation, en fait, j'ai un peu pris dans la tronche, en fait, c'est des fausses excuses, quoi. Et du coup, en sortant de là, il m'a fait promettre de le rejoindre la semaine suivante pour aller parler à la conseillère en éducation internationale, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais bon, la dame qui organise les échanges internationaux. Et il n'y avait plus de place en Alaska, donc c'était clair. Mais pas, j'ai insisté quand même. Et je fais, c'est pas grave, je le fais quand même. Et c'est comme ça que j'ai fini. C'était vraiment un coup de cul. À la base, moi, je m'en fichais que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. En fait, c'était vraiment, j'avais envie de faire un truc qui me sorte un peu de ce dont j'avais l'habitude, découvrir une autre culture, pas me retrouver dans la situation où, genre, ah bah tiens, ça fait 10 ans que je bosse. Et en fait, j'ai jamais voyagé, tu vois. En fait, c'était un peu ça à la base.
Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que... Bon, là, on va parler un petit peu de politique, donc j'espère que les oreilles indiscrètes de la NSA vont pas te mettre une fiche rouge et le double T sur ton billet d'avion. Alors, le double T, ça veut dire que vous faites systématiquement fouiller par la TSA. Hein. Est-ce que c'est encore intéressant pour les Français de s'établir aux États-Unis actuellement?
Ben, en fait, il y a un truc qui me... En gros, le truc avec les États-Unis, c'est que ça me rappelle un peu comme quand je bossais chez Apple. C'est un sujet qui est super controversé, mais vraiment, genre, il y a des gens qui adorent les États-Unis, il y a des gens qui détestent les États-Unis, un peu dans le même sens, il y a des gens qui adorent les iPhones, il y a des gens qui détestent les iPhones. Et en fait, quand t'es dedans, en fait, tu dis, mais en fait, c'est juste un pays, quoi. Et c'est juste... Apple, c'est pareil, c'est juste une boîte qui essaie de faire des produits, quoi. Et du coup, c'est des gens qui essaient de prendre des décisions, qui prennent pas les meilleures, qui essayent de faire des choses, mais bon, voilà, c'est, mais là, toute la controverse autour et l'émotion autour, en fait, elle passe un petit peu au-dessus, quoi. Je pense que les États-Unis, c'est un pays qui est intéressant, je trouve que c'est une culture qui est intéressante, il y a plein d'autres cultures intéressantes. C'est peut-être un peu naïf, mais je me dis qu'il y a, pour chacun d'entre nous, il y a un peu peut-être une culture quelque part dans le monde, tu vois, qui est la plus adaptée à chacun d'entre nous, tu vois, genre. Moi, j'aime bien les États-Unis, mais je dis pas que c'est le pays qui était fait pour moi non plus. J'y suis bien, mais bon, je dis pas que je vais y rester, passer le reste de ma vie. Mais je trouve que c'est important. Chacun, tu vois, je me dis, je me suis toujours dit, c'est un peu peut-être provocateur, mais je me dis que j'entends beaucoup de Français qui disent, non, mais tu dois rester en France. C'est pareil un peu dans pas mal d'autres pays. Tu dois rester dans le pays dans lequel t'es né parce que tu vois, tu dois quelque chose et tout. Et je me dis, mais ça rend pas service en fait au pays duquel tu viens d'accepter complètement inconditionnellement toutes ces décisions, quoi. Et de dire, moi je suis d'ici et j'ai une fidélité. Ah non, ça rend pas service, ça te rend pas service à toi, ça rend pas service au pays non plus. Ce qui est important, c'est de trouver là où tu as envie d'être, d'y aller et d'y être bien, et de, si tu es plus bien, d'aller ailleurs. Et de, enfin, tu vois, je me sens pas trop avoir d'attache en fait d'un point de vue nationaliste du tout, quoi, en fait.
D'accord. Est-ce que tu recommanderais un étudiant à venir étudier aux États-Unis, et avec quels arguments? Je veux dire, pas forcément l'argument de la disponibilité légale de la bouffe.
C'est peut-être un bon argument pour certains, moi je ne juge pas.
On est sur éphémère, hein, malheureusement, ça intéresserait beaucoup de monde.
je te crois. J'imagine que ça doit dépendre des domaines. Je peux parler beaucoup de la tech, parce que c'est celui que je connais le plus, mais en tech, venir bosser, surtout en Californie, ça a vraiment du sens, parce que tu vois, je suis arrivé et j'ai pu bosser pour Apple, j'ai pu bosser pour Salesforce, qui sont des vraiment très bonnes boîtes. Et c'est pas très difficile quand t'es en Californie. C'est vraiment la plupart des jobs, en fait, dans la tech, en Californie, c'est beaucoup des jobs comme ça. Et même souvent, c'est pas vu comme très glorieux, en fait, de rejoindre une grosse boîte comme ça par rapport à une startup plus risquée, tu vois. Donc, c'est un peu des jobs confortables. Du coup, ça a du sens, en fait, je pense, pour lancer une carrière quand t'es junior ou quand t'es stagiaire, de chercher un gros, beau nom à mettre sur ton CV. Après, il n'y a pas non plus que la Californie dans le monde. Il y a d'autres super belles boîtes qui peuvent être, tu vois, même rien qu'en Europe, tu vas bosser pour Spotify en Suède, je crois. Tu vois, c'est déjà un super beau nom. Tu as plein d'autres boîtes ailleurs. Mais c'est vrai qu'en Californie, tu en as beaucoup plus en termes de concentration qu'ailleurs. Donc, ça a du sens dans ce sens-là. Après, les autres domaines, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.
Professionnellement, quels sont les différents types de visas qui sont disponibles pour aller travailler aux États-Unis?
Alors, c'est un peu compliqué. C'est un domaine qui m'intéresse vachement en plus. Donc, du coup, si tu me lances là-dessus, je vais en parler pendant des heures si tu m'arrêtes pas. Donc, je vais essayer.
S'il y a trop de références et tout ça, on les renverra sur la page de l'émission où on mettra tous les liens, de toute façon.
Ouais, si tu veux. Mais de toute façon, dans ces cas-là, de toute façon, il vaut mieux rester un peu superficiel et dire, si vous voulez avoir vraiment du vrai conseil, parlez absolument à un avocat. C'est des concepts qui sont, des conseils qui sont très complexes, qui dépendent vraiment de votre situation. Donc, n'écoutez vraiment pas les conseils de enfin, ne prenez pas pour argent comptant les conseils de qui que ce soit, sauf un avocat sur ce type de sujet. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on parle beaucoup du H1B, parce que c'est le visa un peu d'immigration professionnelle. Mais il y a pas mal d'autres pistes, hein, même qui sont relativement réalistes pour pas mal de gens qui bossent et qui sont pas du tout H1B. H1B, il y a beaucoup de désagréments, notamment le fait que ce soit, il y a tellement d'inscrits que c'est devenu une loterie, notamment le fait qu'il faut s'inscrire en avril pour arriver au pays en fin d'année. Donc ça fait, pour certains employeurs, c'est vraiment un risque gros que de devoir t'attendre pendant aussi longtemps. Ils n'auront peut-être plus besoin de toi le temps que tu sois là, quoi. Donc, il y a beaucoup de risques en fait, autour du H1B qui ne sont pas nécessairement intéressants, mais il y a d'autres pistes. Il y a le L1 qui est un visa de mutation. Donc, par exemple, tu peux bosser dans une boîte à l'étranger pendant au moins 12 mois. Et après, c'est très, très simple du coup, pour eux de faire un visa L1 s'ils en ont envie, évidemment, pour te muter aux États-Unis. Et c'est un visa qui est très déterministe. Ça marche, tu vois, ce n'est pas très complexe. Il y a le visa O1 qui est, il y a beaucoup de gens qui, quand ils disent sur le visa O1, se disent, ah oui, mais moi j'ai pas de prix Nobel donc je peux pas le faire. Et non, c'est pas ça. C'est, en effet, les prix Nobel peuvent avoir des visas O1, mais moi j'en ai eu un de visa O1 par exemple. C'est pas aussi difficile que ce que ça donne l'impression, surtout dans la tech. Ce que la personne qui va juger ton dossier quand tu as un visa O1 va regarder, sachant que c'est des gens qui ne connaissent rien en tech, évidemment, hein, c'est des agents du gouvernement. Normal, hein, ils peuvent pas s'y connaître dans tous les domaines, donc c'est des gens qui sont des spécialistes de l'immigration, mais pas des spécialistes du domaine dans lequel t'es. Donc ce qui compte pour eux, c'est est-ce que t'as eu des récompenses, est-ce que t'as écrit des publications, est-ce que t'as parlé à des conférences, et c'est des trucs qui sont pas nécessairement très durs à obtenir en tech, tu vois. Donc du coup, il y a moyen en fait, visa O1, si tu bosses et que tu t'amasses un petit peu toutes ces preuves-là et tous ces trucs et tous ces succès qui ne sont pas tellement difficiles, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien aussi. Et puis, y a le visa E2, mais le visa E2, c'est un peu bizarre. Je pense qu'on va en parler un peu plus. Je crois que tu avais l'intention de me parler un peu de Laurel et de son bouquin.
Pas spécialement, mais L2, c'est lié en fait à une entreprise, c'est ça?
E2, ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai eu à une époque.
Et c'était le piège dans lequel elle était tombée, quoi.
Ouais, et j'ai eu la même histoire, moi. Donc c'est comme ça. Ouais, c'est assez courant et c'est pas particulièrement les entrepreneurs français. Hein, c'est un peu tous les. Il y a 34 pays, je crois, dans le traité E2. Et c'est souvent, même quand l'employeur le veut pas spécialement à la base, quand c'est une situation un peu comme ça, où il y a une certaine précarité immigratoire, où tu sais que si tu perds ton job, bah, t'es obligé de bouger du pays et tu veux vraiment pas que ça se passe, ça crée une relation bizarre avec l'employeur, quoi. Et c'est pas sain, en fait. Bon, j'ai une histoire un peu similaire, peut-être pas aussi violente que Laurel, mais peut-être plus violente sur certains autres points, d'ailleurs. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontré à l'époque, d'ailleurs, parce qu'on a vécu un peu une histoire similaire. Et c'est pas cool, et ça arrive. C'est pas rare, malheureusement.
Donc, on est un an depuis l'investiture de El Señor Trump. Est-ce qu'il y a eu un durcissement dans l'employabilité des non-citoyens américains pour les entreprises ?
Je pense par la force des choses, oui. Je pense.
Attention, j'ai oublié de préciser dans la question, uniquement on parle d'immigration légale. Déjà,
ah oui.
Ce qu'effectivement, il y a deux niveaux, quoi.
Ouais. Alors l'immigration illégale, carrément plus. Hein, il y a énormément de descente de ICE, qui est les gens qui arrêtent les immigrés clandestins. Il y a vraiment une accélération de tout ça. La situation des réfugiés est particulièrement plus difficile qu'elle l'a été, même si ça, c'est légal pour le coup. Mais même, en fait, il y a aussi pas mal de choses qui se passent, qui sont un peu des choses subtiles par rapport aux situations légales, ou genre, ah ben non, finalement, les époux ou épouses de gens qui ont H1B, ben, finalement, on a décidé d'arrêter le programme avec lesquels qui va les autoriser à travailler. Ah mais non, mais finalement le H1B, il y avait tel bénéfice qui était pas nécessairement dans la loi, donc vu que c'est pas la branche législative qui l'a autorisé, Trump c'est la branche exécutive, bah on va retirer ce bénéfice-là. Et tu vois, tu remarques ces choses-là qui font un peu que tu sais que l'immigration va être un peu plus difficile sur les années qui viennent. Ça crée une perte de confiance de la part des employeurs par rapport au fait que le risque, elle va sans doute être plus élevé, et par la force des choses, bah du coup ils y réfléchissent plus à deux fois qu'avant, quoi. Et c'est normal, hein. Franchement, ça se comprend. J'ai monté un site à une époque qui s'appelle techmeabroad.com, dont le concept, c'était vraiment de mettre en connexion, qui est toujours là d'ailleurs, hein, de mettre en connexion des employeurs et des employés à travers les frontières pour, en fait, je cherche un super bon développeur, c'était purement tech, hein, le site, développeur n'importe où dans le monde, où que je sois, je vais l'immigrer. Et à l'époque, la difficulté qu'on avait, c'était vraiment les employeurs, ils voyaient que c'était difficile, quoi. Comment tout le processus migratoire, les mecs qui cherchaient du boulot, les mecs et les filles qui cherchaient du boulot, étaient super excités, super contents. Ça, les employeurs, c'était honnêtement dur pour eux de s'imaginer faire tout ce processus. Donc aujourd'hui, je pense que c'est encore plus honnêtement dur. Et du coup, ouais. Après, c'est. Enfin, moi, je plains pas les États-Unis là-dessus. Je dis pas, oh mince, c'est exactement ce que le gouvernement veut faire. Ça leur fait du mal. Tant pis pour eux. Hein. C'est une décision qui a été prise. C'est un peu pareil en France, l'immigration des talents étrangers est difficile, l'intégration, et tant pis quoi, c'est une décision qui est prise, et tant pis quoi, il y a des pays qui intègrent mieux, tant pis.
Et tant mieux pour l'Europe peut-être. On a déjà posé la question à Laurel, mais qu'est-ce qui est le plus dur aux États-Unis ? Est-ce que c'est l'absence de fromage décent ?
Alors, non, parce que, alors déjà d'une part, niveau bouffe, c'est super difficile, différent entre la Californie et ici. Aussi, il y a vraiment une vraie culture bouffe qui n'existe pas vraiment en Californie. En Californie, ils ont des très très bons ingrédients, mais ils les cuisinent pas vraiment, tu vois. Alors qu'ici, c'est tout le contraire. Ils ont des ingrédients qui sont bien, mais par contre, ils ont une culture de la préparation de la bouffe, de la cuisine et tout ça, qui est super intéressante. Et pour le coup, ils ont des très très bons fromages, mais ça coûte un peu cher. Donc en France, tu manges un fromage, tu vois, tu t'en manges à tous les repas et ça se passe. Ici, tu manges un fromage, c'est un peu un événement, mais ils sont super super bons. Par contre, le pain, il n'y en a pas. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas.
Ouais, bah, je connais quelques expats qui font du pain aux États-Unis, d'ailleurs. Du
ouais,
coup.
Mais bah, j'ai essayé.
Quitte à abandonner leur poste de lead dev Node.js, donc c'est dire.
Ah ouais, oula, waouh. Du niveau. Non, mais j'ai essayé. Là, je suis allé dans des boulangeries françaises et tout ici, d'expats français, des vrais français qui parlaient avec un accent bien français. Et non, ce n'est pas pareil. Alors, je pense qu'il doit y avoir des ingrédients ou des trucs comme ça. Après, moi, ce qui est le plus difficile, hein, je pense, c'est comme tout le monde en vrai, hein, c'est les gens, quoi. T'as la famille, les amis qui sont restés là-bas, et du coup, bah, nécessairement, moi, j'ai fait un choix de vie où je bouge beaucoup. C'est pareil, hein, que ce soit en France ou San Francisco. Il y a des gens à San Francisco aussi qui me manquent. Quand je partirai de Chicago ou quand je partirai des États-Unis, Si ça arrive un jour, bah pareil, les gens d'ici me manqueront. Mais c'est vrai que tu te dis, ah merde, quand même, mes potes en France, ma famille en France, ça part jamais vraiment, quoi. Normal.
On fait une pause musicale. Go West, repris par les Pet Shop Boys, et à l'époque quand le clip était sorti, il avait fait un immense scandale parce que la Statue de la Liberté était noire. Et à noter, si vous écoutez bien, derrière vous entendrez les chœurs de l'Armée Rouge.
Oh,
Vous écoutez Radio Éphémère. C'est CPU, le magazine Carré Petit Utile, et nous sommes donc avec Rudy Rigaud, senior software technologiste, qui est expatrié aux États-Unis, plus exactement à Chicago. Vu des médias en France, on n'aurait jamais cru à la victoire de Trump, mais c'est clair qu'on n'a pas vraiment bien compris, au final, que justement, il avait une chance parce qu'on n'y vit pas et on nous le présente d'une manière un petit peu peut-être biaisée. Quel a été ton ressenti le soir de son élection ?
Ben moi, après, moi, je suis nécessairement biaisé d'une certaine manière puisque j'ai vécu longtemps en Californie. Maintenant, j'habite ici à Chicago. C'est deux endroits extrêmement démocrates.
D'ailleurs, c'est de là, il est de Chicago, Obama.
Ouais, et Clinton aussi.
Oui, c'est donc, vrai.
C'est une ville qui est très, très, très démocrate, Chicago. Ils ont voté si tu regardes, je ne me rappelle plus quel est le score par rapport à l'élection Clinton-Trump, mais Trump s'est fait écraser à Chicago, et c'est bien normal. Donc, du coup, je ne l'ai pas vu venir non plus. Hein. Franchement, j'étais super choqué, j'étais super outré. Et sur le coup, je n'ai pas compris. Maintenant, je regarde en arrière et ça a plus de sens pour moi ce qui s'est passé ce soir-là. Par le fait, à l'époque, je me disais, ouais, j'ai rien compris sur les États-Unis, en fait. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais non, c'est pas possible que de se tromper à ce point sur les États-Unis. C'est un pays qui a toujours été politiquement super progressiste, qui a élu, avant Trump, c'était quand même leur premier président issu de la minorité, ce qui est quelque chose qu'on voit vraiment très peu dans les autres pays du monde, tu vois. Et c'est les mêmes voteurs qui ont voté pour Obama et pour Trump, tu vois. Donc tu te dis, attends, il y a un truc, c'est les gens qui ont voté comme ça, il y a un truc que j'ai pas compris. Et je pense qu'il y a beaucoup à expliquer par rapport au fait que les gens, ils votent beaucoup aux États-Unis contre le gouvernement. Ils n'aiment pas leur gouvernement du tout. Ils n'ont aucune confiance dedans. Comme en France, les gens, ils n'aiment pas trop leur gouvernement non plus, mais sauf qu'ici, ils sont vraiment hostiles à leur gouvernement, quoi. Et du coup, c'était vraiment, ah bah tiens, c'est le candidat qui va éclater le gouvernement, que ce soit Obama ou Trump. Tu vois, c'était un peu ça l'idée, quoi. Après, il y a un truc que je réfléchis avec un an de recul, tu vois, maintenant. Ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'il est là où il est. C'est que je me dis, tu vois, surtout en tant qu'ingénieur, on nous a toujours dit, quand tu mets un service en ligne, ben tu dois toujours tester ton service en production et mettre du chaos en production. Du coup, je me dis, Trump, c'est un peu ça. Trump, c'est le chaos en production et le bordel en production dont les États-Unis avaient besoin. Et on teste un peu la résilience du système. Est-ce que vraiment, ça va se maîtriser seul et se compenser? Et c'est pas mal pour l'instant quand tu regardes. En fait, t'as beaucoup de choses que Trump voulait faire, qui était vraiment abject, qui faisait peur, et qui peut pas faire, parce qu'il est bloqué, en fait, vraiment, par les deux autres branches, par donc la branche législative et judiciaire, et qu'il n'arrive pas à faire. Il y en a qui l'arrivent à faire, hein, clairement, donc c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Mais les trucs les plus tarés, les plus complètement... ça passe pas, il y a des gens qui l'attaquent en justice, il perd, le truc passe pas. Et quand tu réfléchis, en France, j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça, par exemple. Et il y a beaucoup d'autres pays où c'est pareil. Quand le président, il prend une décision, c'est une décision destructive, tu peux pas l'attaquer en justice et tu peux pas, ou si quelqu'un l'attaque en justice, la décision, c'est difficile de la faire tourner. Là, ça arrive tout de même, quoi.
Oui, le régime législatif aux États-Unis est beaucoup moins présidentiel qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a vraiment beaucoup de recours. L'ambiance le lendemain de l'élection dans les entreprises de la high-tech, tes contacts, ils l'ont vécu, ça a été le coup de massue derrière la tête
Ouais, beaucoup. À l'époque, je bossais pour Salesforce, le jour de l'élection, qui est une boîte franchement de gauche, qui est très, très, très de gauche, avec beaucoup de missions humanitaires et de blabla. Dans tout mon département, qui fait 300 personnes, on a eu un jour de congé le jour d'après, un jour de congé surprise, quoi. Parce que, pour que les gens récupèrent, vraiment, réellement.
Ah ouais.
Ah ouais, parce que les gens l'ont extrêmement mal vécu. Toujours maintenant, les gens, ils sont un peu continuellement choqués. Tu le vois dans les news, tout est fait un peu pour Trump a encore fait ça, quoi. Et puis tout le monde se prend la main dans la tête et a honte, quoi. Après, un truc positif, c'est que les gens, ils sont plus engagés aussi maintenant. Ils ont vraiment envie, tu vois, ils sont dehors, ils font bouger les choses. Il y a un vrai, et ça a vraiment des conséquences. Ça fait que tu as des législateurs républicains qui, du coup, devraient normalement dire oui à tout ce que Trump dit, mais qui ils réfléchissent à deux fois. Donc, c'est un positif, mais bon, après, oui, il y a beaucoup de côtés négatifs quand même. Donc, c'est un petit côté positif, quoi. Mmh.
Bloomberg a cité récemment, donc c'est à donc on enregistre là, on est le 28 janvier et donc c'est un article qui est sorti cette semaine. Bloomberg donc a titré que les États-Unis quittent les 10 pays les plus innovants au monde. Calcul qui est fait selon des indicateurs composites. Mais est-ce que toi t'as vraiment ressenti une perte de la créativité au niveau d'un continent entier à cause de cette élection ou c'est complètement subjectif?
J'ai plusieurs sentiments par rapport à ça. D'une part, je suis pas surpris. Je pense qu'il y a plein je pense que c'est la plus importante à dire. Il y a plein de scènes startups qui sont intéressantes, qui sont émergentes dans le monde et qui sont vraiment à suivre. La France en fait partie. Il y en a pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressantes et prometteuses, entre guillemets. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Je pense que c'est pas une question de créativité. Je pense à en moyenne, j'ai pas du tout j'ai pas du tout la croyance que, le français moyen est plus ou moins créatif que l'américain moyen, que le brésilien moyen ou que le japonais moyen, quoi. Je pense que c'est vraiment plus, est-ce que l'environnement qui est autour de cette créativité maximise, optimise le fait que cette créativité, elle crée de la valeur marchande, ou est-ce qu'il y a beaucoup de friction? Tu vois, c'est plus ça, à mon avis, les critères qu'il faut regarder, tu vois. Et après, qu'est-ce que ça peut être, tu vois? Qu'est-ce qui favorise la prise de risque? Il y a un certain type d'investisseur qui aime la prise de risque et qui, du coup, va plutôt monter des startups qui sont définies par la prise de risque. Tu vois, ce genre de choses. C'est plus, à mon avis, il faut plus regarder dans l'environnement. Après, il y a plein de marchés qui prennent un intérêt, mais enfin de mon côté, moi, ce qui compte pour moi personnellement, c'est pas nécessairement les métriques que Bloomberg regarde, même si je comprends complètement que les gens sont intéressés par ça. Moi, j'ai pas nécessairement envie d'être dans une place de start-up qui est en voie de maturité et de l'aider à arriver à la maturité. Je préfère être dans un endroit qui a déjà cette maturité un peu contribuée. J'ai pas envie d'en faire mon combat, en fait. Je préfère être dans un endroit où il y a déjà la culture startup, où il y a déjà beaucoup de choses qui sont mesurablement des succès. Et quand tu regardes concrètement comment tu mesures le succès d'une startup, tu mesures à sa sortie, quelle est la valeur de son IPO, quelle est la valeur de son acquisition. C'est vraiment les deux sorties possibles. C'est comme ça qu'une startup a du succès. Et quand tu regardes, en fait, où ils sont les gros succès start-up, les grosses sorties start-up, les États-Unis ont quand même une grosse avance sur le reste du monde. Du coup, je me dis, ça risque de changer à l'avenir avec toutes ces indications et tout ce que Bloomberg mesure. Je suis d'accord que la tendance, elle est plutôt à donner sa chance à plus d'endroits et plus que les États-Unis et que la Silicon Valley. Mais pour l'instant, ça reste ici l'endroit où il y a le plus de maturité et de succès mesurable, quoi. Donc, pour l'instant, je reste ici.
C'est une tendance de fond, désolé du jeu de mots, mais il semble que depuis 2 ans, les financements soient moins faciles à obtenir quand on monte une start-up. Donc, ça veut dire que ça date déjà d'avant Trump que dans la Silicon Valley, dans les principaux lieux tech des États-Unis, il y ait moins de facilité à monter des fonds d'une manière importante.
Ouais, je sais pas si 2 ans c'est correct, parce que je me rappelle qu'il y a 1 an et demi, j'avais des potes qui montaient des startups et qui arrivaient à lever sans trop de difficultés. Mais oui, c'est clair qu'il y a une baisse de l'investissement dans les startups très très early stage. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, franchement. Parce que, voilà, ouais,
on finançait un peu tout et n'importe quoi.
Ouais, il y avait beaucoup de ça, surtout dans la Silicon Valley. Tu voyais beaucoup de gens qui créaient en fait des startups parce que c'est bien de créer une startup sur ton CV, mais qui n'avaient pas vraiment nécessairement l'envie de la construire de manière plus solide. Et comme c'était facile, en fait, finalement, tu te retrouvais un peu avec des projets comme ça qui n'étaient pas nécessairement prometteurs, pas nécessairement stables. Alors que si ça devient plus difficile, du coup, il va falloir montrer un peu plus de ce que tu as réellement fait, faire un peu plus d'efforts. Ça va pas être, tu vois, je fais une startup pour me glorifier moi-même. Ça va être des vrais business plus intéressants. Ça va rendre le boulot des VC un peu plus simple. Ça va créer des plus jolies boîtes. Du coup, par contre, ça, c'est pas plus difficile de lever de l'argent maintenant qu'il y a 2 ans pour une startup qui est déjà mature. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le marché continue à construire des choses vers le haut et à construire de la valeur quand les choses, elles sont stables. Enfin, elles sont un peu plus prouvées que early stage, quoi. Mais ouais, early stage, c'était un peu trop n'importe quoi. Donc, je suis pas nécessairement mécontent de cette tendance.
D'accord. Depuis 2001, donc, les étrangers se font fouiller à l'heure de leur arrivée sur le sol américain. Même maintenant, on demande les accès aux réseaux sociaux et aux boîtes email à l'avance avant de débarquer. Est-ce que, c'est pas dû à Trump, hein, et Obama aussi a durci le dispositif. Est-ce que c'est pas un frein non plus pour faire du business avec des étrangers?
Si, c'est prouvé même. Cette semaine, toutes les news n'arrêtent pas d'en parler du fait que les chiffres du tourisme sont complètement effondrés. Si tu dis que les chiffres du tourisme se sont effondrés, du coup, ça veut dire que les gens qui viennent aussi pour faire du business à tous les coups viennent plus non plus pour exactement les mêmes raisons. Donc ouais, à mon avis, c'est assez sûr. Et c'est même pas que ça. Donc il y a la TSA. Hein, il y a clairement un problème avec la TSA et les fouilles à l'entrée de la frontière et la reconnaissance des droits constitutionnels à l'entrée de la frontière. Même s'il y a des cas en ce moment qui sont dans le cycle judiciaire, qui pourraient très bien changer beaucoup de choses. Que si ça monte à la Cour suprême et tout ça, il pourrait vraiment se passer des choses intéressantes pour dire non, les êtres humains ont autant de droits à la frontière qu'ailleurs. Ce serait vraiment bien. Mais il y a aussi évidemment le discours de Trump qui a quand même empiré les choses, même si les problèmes de la TSA sont plus anciens. Le fait que les gens, nécessairement, partout dans le monde, ils écoutent ce que Trump dit, ben, tu te sens moins bienvenu à venir, même en tant que touriste dans un pays où t'as un chef d'État qui dit des trucs comme ça. Je pense vraiment que oui, c'est une évidence que ça fait du mal aux États-Unis. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est un choix qui est fait par le gouvernement, qui donne des résultats. C'est ce qui est souhaité, et c'est les résultats qui sont souhaités, tant pis pour eux, quoi.
À une époque, la Californie était très en point dans la législation pour l'environnement, puisque je crois qu'ils avaient leur agence régionale qui a été créée dès les années 60. Avec Trump, l'EPA se fait museler, toutes les études sur le réchauffement climatique se font censurer et tout ça, alors que la Chine commence à réguler de son côté et veut même montrer une certaine avance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un rééquilibrage qui va se faire? Ou est-ce que, justement, la manière dont Trump se comporte, ça remet en cause pas mal de choses dans les entreprises et du coup, les entreprises se reposent des questions, justement, sur le harcèlement sexuel, moral et tout le reste? La question est complexe. La question est complexe, justement, oui. Je suis désolé.
Attends, déjà, d'une part, la Californie et la Chine, je pense que c'est deux exemples qui ne sont pas des bons exemples pour ce thème-là. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce n'est pas les bons exemples. La Californie, d'une part, parce que rappelle-toi que l'EPA, elle est au niveau fédéral.
Oui.
Du coup, les États ont complètement la possibilité d'ignorer ce qu'ils disent et de faire ce qu'ils veulent. Et que la Californie sont toujours super, super stricts sur les lois environnementales. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire sur le reste des États-Unis? C'est clair, l'EPA, c'est un peu une cata. Pour les États qui n'ont pas spécialement jamais eu trop de démarches environnementales, c'est vrai que c'est une cata. Pas la Californie, par la force des choses, mais les autres, oui. La Chine... je pense que c'est pas un bon exemple non plus parce que c'est un des seuls pays qui a un retard absolument catastrophique par rapport à tout ce qui est environnement. Par contre, il y a d'autres pays qui ont vachement moins de retard par rapport à l'environnement qui pourraient vraiment prendre la place des États-Unis rapidement par rapport au leadership là-dessus. En Chine, il y a un truc. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais je me rappelle que quand j'étais à San Francisco, les gens disaient que 30% de la pollution à San Francisco vient de la Chine. Tu vois, parce que c'est de l'autre côté de l'océan. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, c'est pour te dire, il y a vraiment ce truc de, la Chine, c'est les gros pollueurs. Mais par contre, en comparaison, si tu regardes avec les lois européennes, c'est vachement intéressant ce qui se passe. Et l'Europe pourrait vraiment prendre le dessus là-dessus. Il y a pas mal de choses qui se passent en Amérique du Sud qui ont l'air d'être très intéressantes aussi, tu vois. Donc, peut-être pas la Chine, mais ailleurs, ouais, c'est clair. Et c'était quoi le lien avec le harcèlement sexuel? J'ai pas
du tout. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas non plus un coup de fouet qui se fait dans les entreprises par rapport au harcèlement sexuel, vu comment Trump se comporte, et donc des règles plus strictes qui sont en train de se mettre en place en contre-coup?
Ah, mais carrément. Et c'est cool ça. T'as vraiment une population de gens qui avaient pas nécessairement, qui prenaient ça comme, c'est comme ça en fait. Ça fait partie de la culture d'entreprise qu'il y a des gens qui agissent mal les uns avec les autres et c'est culturel, plus dans certaines industries que d'autres. On a vu que dans le ciné, en ce moment, ils en parlent beaucoup. Et là, on commence vraiment, j'ai l'impression, moi, je ne suis pas trop dans ces bulles-là, mais je pense que je vois à peu près la même chose que ce que toi, tu vois. Les gens, ils commencent à dire, mais en fait, pourquoi on trouve ça normal, quoi? Qu'est-ce qui est acceptable là-dedans? Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas à tout le monde, hey, cette personne-là, elle m'a fait ça? Et est-ce que à qui cette personne-là a fait des choses aussi? Parlons-en et on n'aura pas de backlash, je sais pas comment dire, des gens qui nous puniront, quoi, de rétaliation.
Voilà, de retour de bâton.
C'est ça, ouais. Bon,
top, quoi. On fait une pause musicale.
This one from my heart. You were born in America, how fortunate you are. You can say what you want, think what you want, do what you want to do. Oh, to be an American, to be like one of you.
I came here from a foreign land. How fortunate I am. And like so many before me, you opened up your arms. You give me your valleys, mountains and your plains. You give me a love that's true. Now I too am American. I am just like one of you. Now I am an American. I am just like one of you. Just like you and you.
Jack Black, Proud to be American, extrait du film Le Roi de la Polka, disponible sur Netflix. Une histoire vraie et complètement démentielle d'un joueur, d'un chanteur qui avait son orchestre de polka en Pennsylvanie et qui a monté. Non, je vous dis pas. Je vous laisse regarder le film jusqu'au bout. Ça vaut vraiment le détour. Vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et donc nous sommes avec Rudy Rigaud qui est senior software technologist expatrié aux États-Unis, plus exactement à Chicago. Alors, je sais que tu n'es plus en Californie, mais y a-t-il un réel effet French Tech où personne n'en entend parler honnêtement ?
Ah, alors
toi, t'es français, t'es expat, parce que donc tu entends parler, mais après ouais, quand ouais. tu en parles, est-ce que ça c'est mutisme ou c'est oh yeah ?
Je pense que c'est un truc qu'il faut d'abord savoir, c'est que les, surtout en termes de valeur marchande, les Américains ne classent pas du tout par nationalité les choses. Mais même pas, même les produits américains. Et ça, je l'ai vu beaucoup en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voir des acheteurs ou des clients, des annonceurs, voilà, des clients potentiels qui regardent deux produits, qui les comparent et qui disent, ah bah tiens, ce produit-là, il est un peu mieux que celui-là, mais le deuxième, il est français, donc c'est un critère, donc du coup, on va prendre lui. Tu vois. Ça, ça n'existe pas du tout ici. Genre, t'as un produit ici qui est un peu mieux que l'autre. Le deuxième, il est américain. Le premier, il est italien. Tu prends le produit italien, il est mieux que l'autre. Tu vois, tu vas pas. Les gens, ils se posent pas cette question de d'où vient la nationalité.
Ah, on n'est plus dans le buy American, c'est fini, quoi.
Le pardon ? Ah, pas dans les. Je pense que ce qu'essaye de faire le hire American, buy American, tout ça au niveau du gouvernement, c'est plus pour les consommateurs qu'ils achètent des voitures et des trucs comme ça. Mais les boîtes, les produits B2B. Il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est vraiment, ils vont, vas-y, prouve-moi que tu vas me donner de la valeur si j'achète ton produit. Si tu peux me le prouver, je vais prendre ton produit. J'en ai rien à foutre d'où il vient, quoi, en gros. Du coup, un peu cette notion de, bah, on est French Tech, donc du coup, ça prouve que la France, elle fait des meilleurs produits. Je ne la vois pas comme vraiment pouvoir accrocher sur la culture ici. Et en plus, je pense qu'elle peut être négative, involontairement, par le fait que si les gens mentionnent French Tech en disant que c'est un programme gouvernemental, vu que les Américains, ils détestent l'intervention du gouvernement dans le domaine privé, je pense que ça peut faire genre, et pas nécessaire, tu vois, c'est un peu, comment dire, c'est un peu cynique, mais c'est pas faux de se dire que ce genre de programme s'est créé parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de se faire réélire, pas nécessairement pour créer de la valeur. Du coup, c'est un peu ce que les Américains vont voir en premier, même si je pense que French Tech a de la valeur, mais ce qu'ils vont se dire en premier, c'est, ah ben oui, mais c'est un programme gouvernemental, donc c'est pas fait pour faire de la valeur, c'est pour faire réélire. Pourtant, je suis convaincu qu'il y a des gens bien intentionnés dans French Tech, que ça crée de la valeur pour les Français entre eux, qui s'entraident, que c'est une démarche qui est positive à plein d'aspects, mais je pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler à des clients américains, ou en tout cas ne mentionner surtout pas que c'est un programme gouvernemental, à mon avis.
D'accord, ok. Les Français dans la Silicon Valley, ça n'a rien de neuf. C'est quoi la spécialité des Français expats pour les employeurs locaux ?
Ben c'est un peu pareil en fait.
C'est l'accent bizarre.
Ouais, alors il y a ça, c'est sûr. L'obsession avec la bouffe. normal. Mais en fait, à la fin, en fait, c'est un peu pareil. Il n'y a pas ce réflexe de regrouper par nationalité la valeur en fait. Du coup, tu vas avoir un ingénieur qui est bon et qui se trouve être français. Au prochain ingénieur français, tu ne vas pas te dire ah bah oui, il est français, donc il est sans doute bon aussi. La différence qu'il peut y avoir, c'est que par contre, s'ils viennent de la même université ou de la même formation, là oui, parce que, et qu'ils sont juniors. tout le monde s'en fout une fois que tu as un certain nombre d'années ici, contrairement à la France, tout le monde s'en fout d'où t'es allé à l'école. Mais par contre, si c'est deux juniors, ils vont se dire, ah oui, ils ont été formés par le même truc, ou que ce soit dans n'importe quel pays, le premier, il était bon, donc le deuxième, peut-être, ça va m'intéresser. Mais, à l'inverse, c'est beaucoup plus glorifiant, finalement, quand on y pense, le fait que les Américains, ils ne séparent pas par nationalité, parce que ça veut dire que les produits français et les employés français qui trouvent leur place aux États-Unis, bah, c'est vraiment pour leur vraie valeur. Tu vois, c'est génial, t'es français, t'as pas vraiment le mur qui existe pour les produits non français en France, tu peux créer à fond de la valeur et se faire reconnaître pour cette valeur avec un peu de chance, et c'est ça qui va vraiment te porter, donc c'est plutôt positif finalement.
D'accord. Est-ce que les startups américaines parlent de s'installer en Europe, voire en France ?
Ouais, alors ça, c'est... mon avis perso.
Vas-y.
Mon avis perso, c'est que y a vraiment un truc très vertueux dans l'idée d'avoir, en tant que startup, ça R&D en France et le reste aux États-Unis. Parce que l'ingénieur français a quand même des qualités qui sont super intéressantes. Comme il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché français, il y a plus de consulting en proportion par rapport à ici. Nécessairement, il y a un peu plus de loyauté par rapport à l'employeur. C'est beaucoup moins cher. Il y a une culture un peu de vouloir faire les choses vraiment très bien, tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'avoir cette approche-là. Après, il y a aussi nécessairement, comme toute chose, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Alors, il y a le verrou un peu du code du travail quand tu embauches quelqu'un et que ça se passe pas bien et tu peux pas le virer. Du coup, ça crée de la mauvaise morale. Tu crois, dans toutes les équipes où j'ai été en France, il y avait toujours une personne qui était catastrophique et qu'on pouvait pas dégager, quoi, ce qui n'existe pas vraiment ici. T'as l'affaire Dailymotion dont les gens continuent de parler encore un peu. Ah, bah oui, mais je suis un VC, si je mets. Ah, ouais, non, mais.
Ça fait 5 ans quand même. Ah, ouais,
ouais, mais.
Ah, ouais,
imagine,
ça a fait des dégâts, quoi.
Imagine, t'es VC, ton but, c'est de mettre de l'argent dans une start-up où t'es sûr qu'elle va pouvoir faire une sortie de grosse qualité. Et tu te dis, ah, ouais, mais si elle est française, il y a peut-être le gouvernement français qui va me bloquer. C'est un risque dont j'ai pas besoin.
D'accord.
Mais ouais. C'est logique, en fait. C'est de la mesure de risque. Là, il y a un risque en plus, rien que par la nationalité. Donc, du coup, ça se comprend. Je sais pas quelle est la vraie friction, hein, par rapport à ça. J'entends parler, mais je sais pas si ça empêche des deals, tu vois. Il y a aussi la surveillance citoyenne, même si elle est pas nécessairement fondamentalement mieux ici. Mais les gens en parlent encore de cette loi. Le fait, et c'est pas faux qu'en France, les modèles d'innovation sont un peu moins théoriquement connus qu'ici. Le marché fragmenté européen, quand tu sors un produit, tu le marketes en français, bah, tu dois le remarketer en italien pour l'Italie, tu dois le remarketer en allemand, alors qu'ici, tu sors un produit, c'est bon pour tout le territoire américain, voire même canadien. Donc, t'as des points positifs et négatifs un peu, mais en tout cas, moi, je trouve une valeur très forte d'avoir la R&D en France et le reste ici pour justement pénétrer ce marché ici qui est moins fragmenté.
D'accord. Et justement, puisqu'on parlait de loi de surveillance, là, je ne sais pas si tu es au courant, mais donc, en Europe, va entrer en application un règlement général européen pour la protection des données personnelles, ça s'appelle le RGPD, ou GDPR en anglais. Est-ce que la Silicon Valley en a entendu un petit peu parler, elle qui monétise les données personnelles des visiteurs ?
Oh oui.
Et ils ont peur ?
Tout le monde ne parle que de ça. Non, pas peur, parce que y a un peu cette conscience que si tu fais les choses bien, tu ne devrais pas avoir de problème. L'aspect punitif de la GDPR, il est vraiment élevé. Hein. Je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires, enfin, ou un truc comme ça.
C'est 5%.
5%, voilà.
5% sur l'ensemble du groupe.
Hein. Ouais, c'est clair. Donc du coup, ce que je me dis, en fait, j'ai vachement réfléchi à ça, parce que c'était un des derniers trucs sur lesquels j'ai bossé à Salesforce avant de quitter Salesforce, c'était ça. Et bon, pour Salesforce, c'est une évidence. Le marché européen, c'est un des axes de croissance stratégique pour Salesforce, ça fait des années qu'ils le disent. Pour eux, c'est extrêmement important. Ils sont déjà là-bas, donc ils ont vraiment pas le choix. Ils ont fait partie des conversations pour écrire la loi. Donc, c'est un domaine qu'ils connaissent très, très bien. Donc, ben, il y a vraiment une revue à l'échelle de l'ensemble de l'ingénierie sur où est-ce qu'on stocke nos données, à quel point est-ce que c'est facile de supprimer les données personnelles, est-ce qu'on a vraiment besoin de stocker cette donnée personnelle, comme ça c'est plus simple si on n'a même pas besoin de la supprimer. Voilà, et vraiment toute cette réflexion là-dessus. Dans ma boîte actuelle, on est beaucoup plus petit, mais on a une présence en Europe, donc du coup on en parle aussi. Mais comme on est plus petit, on a aussi beaucoup moins d'assets software, donc du coup c'est plus simple pour nous de supprimer de la donnée en sachant un peu où elle est. Tu vois, on connaît la vue d'ensemble de où elle existe, notre donnée, elle est plus simple, quoi. Sachant que tu n'as rien besoin de changer, en fait, tant qu'on ne t'a pas demandé de supprimer quoi que ce soit. Donc, c'est juste préparer le fait qu'on risque de te le demander et de savoir comment tu feras quand on le demandera. Et par contre, je me dis, bah, les boîtes qui n'ont pas, ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi, les boîtes qui n'ont pas encore une présence en Europe, tu vois, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Est-ce que ça va les dissuader d'aller s'installer en Europe parce que du coup, elles doivent être en compliance, je ne sais pas comment ça se dit.
En conformité.
Avec la GDPR. Ouais, voilà, en conformité avec la GDPR. Je me dis, il y a peu de chances que ça ait un impact. Parce que concrètement, tu es une boîte américaine. Tu fais la décision stratégique de t'installer à l'international. t'as pas des masses de, comment dire, de marché, à part, tu vois, avec des pays qui sont déjà, où il y a déjà beaucoup d'argent qui tourne, tu sais, t'as l'Europe, t'as l'Asie, t'as peut-être un peu une partie de l'Amérique du Sud, l'Afrique, pas trop, peut-être un peu l'Australie, mais il y a vraiment pas grand chose, il y a pas beaucoup d'habitants. Donc, au final, c'est quoi? Tu vas choisir d'aller en Asie avant en Europe, et une fois que t'es installé en Asie, tu vas où d'autre? Tu vas en Europe, quoi. Donc, en fait, au final, c'est les gens qui ont, les boîtes qui ont pris la décision que c'était un axe stratégique de s'établir à l'étranger, je pense pas que ça va les bloquer en particulier ou pas longtemps, quoi. Tu vois?
D'accord. Rudy, merci beaucoup.
Pas de problème, avec plaisir.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chief, Chauvin, Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et sa documentation sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter, partager et rajouter des liens si vous en trouvez. N'hésitez pas, à l'exception des parties musicales, les chroniques et interviews sont en licence Creative Commons. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet le micro pour son impromptu cultivé, où j'espère qu'elle va parler des grands opéras de Broadway, Gershwin et tout le reste. Ce serait cool, non ?